Nous avons eu une belle intro de Paracha qui nous amène dans le vif du sujet, dans le concret. Et en même temps, je crois que cette Paracha a quelque chose d'important et de fondamental, non seulement à nous enseigner, mais elle m'a tellement travaillé que j'ai changé, j'ai rajouté et j'ai modifié au fur et à mesure. Et après, je me disais, c'est interminable. Et j'ai dit, c'est l'auditoire, il ne va pas vouloir rester jusqu'à 21h. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raccourcir. Vous savez que dans une paracha, il peut y avoir énormément de thèmes. Il peut arriver qu'on puisse donner 17 significations à la paracha, à raison d'une heure à deux heures par chapitre. Donc vous imaginez la richesse que l'on peut avoir dedans. Donc c'est une prouesse quand la plupart font des résumés de la paracha et en même temps on peut comprendre à certains égards la frustration qui peut y avoir derrière. Mais le but est simplement d'initier. Donc il y a un certain nombre de choses que j'aimerais partager avec vous et le thème qu'on va aborder est important à plusieurs niveaux, il y a plusieurs égards. Premièrement, il y a cette notion que nous avons non seulement vue, qui va se vivre aussi bientôt dans le cadre de la fête de Pessah, où nous aurons le Seder avec toutes les explications qui vont avec et qui vont nous orienter sur ce moment très particulier qui est le 14 de Nissan. Et ce temps de l'Égypte est un temps important puisqu'il marque le temps d'une libération, le temps justement où Pharaon a laissé partir les esclaves hébreux afin de servir l'Éternel, hein, pas dans n'importe quel but, mais ce n'était pas simplement humaniste, mais c'était vraiment dans un but spirituel aussi. Et afin que les promesses que l'Éternel avait faites s'accomplissent. Et l'histoire aurait pu s'arrêter à la sortie d'Égypte. Mais Dieu donne encore un itinéraire avec des choses quand même assez relativement précises, parce qu'il dit, tu sors d'Égypte, mais tu vas vers Sinaï. Et pour beaucoup d'entre nous, ça ne veut rien dire, même si on essaye de voir aujourd'hui, au niveau touristique en Israël, ce que ça peut signifier de passer de l'Égypte au Sinaï, pour aller sur ce qu'on appelle aujourd'hui la terre d'Israël, et si vous voulez situer le lieu vers Eilat, donc la mer Rouge. Eh bien, quelque part, on dirait que c'est quelque chose de relativement court entre les deux endroits, et entre les deux va se situer justement le Sinaï. Alors c'est clair que quand on essaye de comprendre le Sinaï, il y a beaucoup de choses qui sont associées à ce mont, à ce lieu, à cet endroit. Il y a non seulement toute la révélation que Dieu donnera à Moshe sur le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, le futur temple, tous les projets du futur, tout ce qui sera lié à la suite des temps. Et pour aller très court et très vite, il est important de voir aussi que c'est là qu'ont été donnés les fondements spirituels, moraux, mais également sous forme de 10 paroles, les 10 dvarim, les 10 commandements qui ont été donnés sur le Sinaï, qui a donné la fête de Shavuot, et qui sont en relation avec quelque chose de très important. Alors, il est vrai qu'on aurait pu sortir un certain nombre de choses et dire, oh, finalement, qu'est-ce que sont ces 10 paroles? Est-ce que ces 10 commandements constituent quelque chose de fondamental? Ou est-ce que c'est quelque chose qui sera passager dans le temps, dans l'histoire? Est-ce que cela comptera encore dans les générations futures? Quand nous voyons qu'aujourd'hui encore le fondement de ces 10 paroles sont présentes ou théoriquement devraient être encore présentes dans nos sociétés, eh bien on réalise que derrière le hasard n'existe pas et que Il a fallu, pour que le peuple se constitue, il lui a fallu un socle, un fondement, qui ne soit pas simplement qu'un fondement lié à la fête de Pessah, donc à la sortie d'Égypte, mais bel et bien quelque chose qui le rattache à l'alliance de Dieu. Quelque chose qui va faire que ce sera plus que la sortie d'Égypte, que ce sera plus que la délivrance, que ce sera plus que tout ce qui s'est passé juste avant ces événements. Et donc, pour rentrer dans ces fondements, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui mérite, comme on dit, le détour, qui mérite également qu'on s'y attarde à plusieurs niveaux. Et je crois que c'est important parce que les 10 dvarim, les 10 paroles, les 10 commandements vont devenir le socle et le fondement. Alors, la question va se poser, et je crois qu'elle est importante dans les réflexions actuelles. Elle n'est pas simplement purement psychologique, philosophique et autres. Elle a une réalité. Quels sont les fondements réellement qui constituent notre vie? Quels sont les fondements? La société a des fondements. Et aujourd'hui, comme Chantal l'a mentionné et rappelé tout à l'heure, il y a des fondements qui, pour ceux qui sont monothéistes, sont ébranlés. Ébranlés, parce qu'ils s'éloignent, parce qu'ils ne correspondent plus. Et en même temps, nous devons réaliser derrière que nous avons des fondements dans nos propres familles, dans notre histoire, dans nos cultures, dans notre éducation, lorsque nous sommes hébreux ou juifs ou juifs messianiques. Et il faut savoir que nous avons des fondements et que ces fondements, eh bien, ont une réalité et qu'ils sont rattachés à quelque chose. Ils ne sont pas simplement des idéologies, ils ne sont pas simplement des fables, ils sont quelque chose de concret. Une vie qui est sans fondement, c'est une vie qui n'a pas de sens dans son futur. Une vie qui n'a pas une histoire, qui n'est pas rattachée à quelque chose, disparaît avec le temps. Il n'existe plus. Et c'est ainsi que l'Ecclésiaste va définir l'homme qui, finalement, est passager et gaspillera, en quelque sorte, le sens de son existence et de sa vie parce que les fondements n'ont plus été. Alors, il est vrai que nous pourrions parler de beaucoup de choses et qu'il y a derrière un élément clé, fondamental, dans lequel nous devons nous rappeler. En tant que juif messianique, contrairement aux juifs orthodoxes ou à la communauté juive, sur lequel les 10 dvarim, les 10 commandements, constituent la base, le socle, pour le juif messianique, il y a également ce fondement-là. Et il n'est pas obligatoirement dans la révélation à proprement dite d'une nouvelle histoire qui fonderait des nouveaux commandements ou des nouvelles paroles. Nous sommes fondés là-dessus. Et la question qui va venir, c'est de savoir, est-ce que finalement nous allons trouver ces fondements dans la nouvelle alliance? Ceci parce que très souvent, les personnes mettent une opposition, séparent, dissèquent et essayent de démontrer qu'il y a la foi chrétienne et qu'il y a une foi juive et qu'entre deux serait une foi messianique. Une identité messianique qui serait finalement basculée entre deux eaux, entre deux tendances, et qu'il n'y aurait plus vraiment un fondement unique et solide dans le Dieu de la révélation d'Israël. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, que la Brit Hadashah, c'est-à-dire la nouvelle alliance en Yeshua, est absolument fondée dans la Torah. Et que nous allons voir un certain nombre de choses. Alors, si nous voulons aller plus loin, la libération de l'esclavage est quelque chose de très important dans une vie. Simplement, devenir libre ne veut pas dire être libre. Devenir libre ne signifie pas gérer la liberté, avoir compris le sens du mot de la liberté. Car qu'est-ce que la liberté? Et ce n'est pas le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, même s'il est magnifique et qu'il est fondamental et important, parce que quand on parle de liberté, il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on peut parler de liberté d'expression, mais en même temps, on muselle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Il y a plein de choses. Et puis, la compréhension de la liberté, pour beaucoup, aujourd'hui, c'est de n'être soumis à aucune forme de règle ou de loi. C'est d'être, finalement, libre de faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut, de ne pas avoir quoi que ce soit qui s'impose à nous et nous contraigne à quelque chose. La liberté, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, comme ce n'est pas mon thème, je ne vais pas obligatoirement le développer. Mais il faut savoir que nous passons de l'esclavage à la liberté. Et que le Sinaï devient le lieu où l'Éternel va montrer ce qu'est le vrai chemin de la liberté, le vrai chemin de la délivrance, le véritable itinéraire qui sont importants. Pourquoi ? Parce que la liberté a des lois. Même si on ne le conçoit pas obligatoirement dans le monde chrétien comme ça. Être libre ne signifie pas ne plus avoir de contraintes, ne plus être soumis à la contrainte du temps, ou du temporel, ou des afflictions, ou de quoi que ce soit. Non, la liberté a des lois. Et ceci veut dire tout simplement que si elle a des lois, elles ont été données, elles ont été promulguées, elles ont été écrites, elles ont été inscrites. Et la Brit Hadasha, c'est qu'elle inscrit dans nos cœurs. Et elle écrit dans nos cœurs cette loi. Et en même temps, je crois que si nous allons juste un petit peu plus loin dans ce sens, elle nous donne ce qu'est les fondements du service de Dieu. Car nous pouvons toujours avoir une compréhension, qu'elle soit ancienne ou moderne, du service de Dieu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que servir Dieu passe par ces phases. Et le but de Sinaï était de dire à Israël, tu es sorti d'Égypte, mais maintenant, il va y avoir quelque chose qui se produit, c'est que tu vas servir l'Éternel. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous voyons qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont non seulement se rajouter, se greffer sur ces 10 paroles, qui se transformeront non pas en 613 commandements, mais qu'il y aura 613 manières d'appliquer ces 10 paroles. Et que cela nécessite beaucoup, beaucoup d'approches. Alors, pourquoi je dis cela ? Parce qu'il y a des bases et des fondements à la liberté. Et si nous voulons être réellement en accord, il faut voir que Yeshua, et celui qu'on utilise beaucoup dans les controverses, mais également dont on interprète très très mal les passages, parce qu'on ne les relie pas à quelque chose qui a une source, une origine. C'est les écrits de Paul, les lettres, pour être plus exact. Des lettres qui sont devenues des épîtres et qui nous démontrent que Paul même, eh bien, est complètement, entièrement dans ses fondements et qu'il n'est pas en train de les combattre. Trop souvent, on a voulu mettre une opposition. Et en opposant Paul à la Torah, en opposant Paul, finalement, à la dimension juive, à la pensée d'Israël rabbinique qui était intégrée dans son cœur, eh bien, on a créé un nouveau Paul. Mais Paul n'est pas quelqu'un qui était dissocié. Et si le temps le permet, nous verrons un ensemble de choses. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui constituent nos fondements et que nous devons être dans quelque chose. Je crois que j'ai mélangé un peu mes notes. Eh oui, c'est ça. Mais je m'y retrouve. C'est que nous devons voir que là, actuellement, eh bien, nous allons rentrer dans une dimension qui nous conduit dans les deux chapitres des Shemot, c'est-à-dire du livre de l'Exode. Alors, il faut savoir que ces deux chapitres ne sont pas là par hasard, et que les parachiotes, c'est-à-dire le pluriel des parachas, n'est pas là simplement pour être discuté, partagé, mais elle constitue le fondement de toute l'année, c'est-à-dire de toutes les étapes par lesquelles on passe dans une année. Elles cheminent chaque semaine avec nous pendant toute l'année pour arriver à la conclusion des 5 livres de la Torah. Et c'est la Torah, finalement, ces 5 livres qui vont constituer le socle d'un ensemble de choses. Et ça commence par le commencement, Bereshit. Ça nous a amené justement à aller plus loin dans les fondements et les fondations qui ont été faites pour aller très vite au travers d'Abraham. Et nous entrons dans les Shemot qui devient le fondement de l'existence d'Israël en tant que peuple et qui va rentrer dans quelque chose. Donc c'est fondamental de bien comprendre que ce passage a quelque chose de très important. Et puis en même temps, si on lit ces deux chapitres de 18 à 20, eh bien on va y trouver des choses pas contradictoires, mais surprenantes. Au lieu d'être quelque chose de très suivi, de très concret et qui s'explique particulièrement, eh bien non, on va trouver des choses qui vont s'orienter réellement dans la définition de réglementer la confection, par exemple, des kérouvim, c'est-à-dire des chérubins. De ce qu'on va trouver dans le chapitre, quelque chose qui va concerner effectivement la construction de l'Arche d'Alliance, les kérouvim. Et on peut se dire, mais c'est étrange. Donc les kérouvim seront dans le Mishkan. Ils seront ceux qui, les ailes et les regards seront sur le propitiatoire, sur un lieu bien défini. En même temps, il y avait des recommandations. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées quand même à des détails qui ont leur importance. C'est que les kérouvim ne devaient pas être faits avec du fer, avec une arme blanche, autrement dit. Quelque chose qui peut être travaillé pour tuer. Et en même temps, nous trouvons un autre élément qui n'est pas présent à ce moment-là, mais qui va se trouver présent dans le Mishkan, et c'est ça le côté étrange. C'est que le Mishkan n'est pas là. Mais il sera, et tout à coup, on trouve vers un troisième élément qui sera le Misbéar. Et Misbéar, c'est l'autel, c'est le lieu de l'autel. Donc il y a quelque chose qui va être en rapport avec le fait d'offrir des sacrifices et dont il y aura tout un tas de lois qui vont régir tous les sacrifices, les 3 sacrifices quotidiens, les 6 sacrifices qui vont constituer, je dirais, une réglementation importante dans la vie d'Israël et tout ce qui sera en rapport avec le culte à l'Éternel. Et c'est indissociable. En plus, eh bien, nous voyons qu'il va y avoir une recommandation qui va se superposer. C'est dans ce Misbéar, pour l'atteindre, il faudra y mettre une rampe. Et donc, de façon à cacher et à dissimuler la nudité du Kohen Agadol. Alors, bien sûr qu'on pourrait dire, on pourrait s'arrêter là et dire, mais qu'est-ce que c'est? Et puis finalement, bien, si ça vient là, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange, parce que le Mishkan n'est pas construit. Et nous trouvons dans cette paracha les 3 éléments qui vont constituer le Mishkan. Alors, on pourrait se poser la question, comment Moïse a-t-il reçu? Est-ce qu'il a reçu par révélation, par vision? Ou est-ce que c'est lorsqu'il a écrit Shemot que cela se fait? Alors, pour aller très loin, il y a quelque chose qui nous amène à réaliser que ces 3 caractéristiques dont il est question, elles ont quelque chose d'important à nous enseigner aujourd'hui. Et de comprendre le sens profond, d'aller dans la profondeur de ces 3 caractéristiques. Alors, voilà comment elles sont définies. Comment on va les définir? Et pourquoi, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était interminable, parce que ça pouvait aller tellement loin dans les explications par rapport même à Yeshua, par rapport à tout ce que je réécoute des écrits de Paul. Et je me dis, mais pourquoi on est passé à côté? La première chose, et qui va constituer la base dans les trois éléments que je vous ai mentionnés, les kérouvim ayant les regards pointés sur le propitiatoire. Et là, on peut se demander pourquoi cette précision des kérouvim. Les kérouvim, ce sont ceux qui étaient dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, qui ont fermé l'accès à Dieu, l'accès au jardin, qui ont maintenu le fait que l'homme ne pouvait plus revenir dans ce lieu, que c'était un lieu perdu pour l'homme, que c'était un lieu où l'homme ne pouvait plus et n'avait absolument plus le droit de résider, d'être dans ce jardin de la communion, de la relation avec Dieu. Il était banni, il a été éjecté, il a été exilé, il a été mis dehors. Et donc, nous comprenons bien que ce lieu a été gardé, gardé par les kérouvim. Alors bien sûr qu'on le retrouve dans beaucoup de domaines, ce concept. Et en même temps, nous pouvons voir qu'il y a quelque chose qui va se développer concrètement et qui va apporter un peu de lumière au fur et à mesure. Et je crois que c'est très important parce que si nous regardons bien les kérouvim qui avaient les regards fixés sur le propitiatoire, ça veut dire que c'était là que se réalisait une fois par année le sang de Yom Kippour et qui est lié au pardon. Et la première considération, c'était le lieu où était offert une fois par année quelque chose qui faisait l'expiation. Et en même temps, c'était le sacrifice de substitution à tout mal. Et le fait qu'il regarde le milieu, et en hébreu, quand on regarde le terme qui désigne le propitiatoire, il signifie également un lieu de règne, un siège, un trône. Donc les kérouvim ne regardent pas aux circonstances extérieures, n'ont pas un regard, un visuel sur ce qui est autour, sur ce qui se passe, ils sont concentrés uniquement sur l'œuvre que l'Éternel accomplira. Et que provisoirement, ils sont les gardiens. Et c'est l'unique moyen, Hébreux 9 et 10 nous conduit, c'est l'unique moyen d'être relié à Dieu, c'est par le sang qui a été versé sur le propitiatoire, car Mashiach est devenu la victime expiatoire, propitiatoire pour être littéral, et qui nous ouvre une route nouvelle vers Dieu. Et que ceci est fondamental. Donc, cela veut dire que la restauration de la relation avec Dieu passe par cet élément-là. Le fait que parfois les gens disent des choses par patois de Canaan sans comprendre fait que ça manque d'une dimension. Mais quand on le relit, eh bien, on comprend qu'il y a un fondement même à cette épître aux Hébreux, cet auteur, entre guillemets, inconnu, mais juif jusqu'au bout des ongles. Et c'est quelque chose de très, très important. Donc, ceci veut dire, et si on va plus loin dans l'étymologie hébraïque, on va se rendre compte qu'il veut dire miséricorde. C'est un lieu de miséricorde. Alors, quand j'entends, ou quand vous entendez, ou quand vous parlez peut-être, ou quand d'autres s'expriment sur un certain nombre de choses et qu'ils disent « Oh, l'Ancien Testament, il n'y a pas d'amour. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Dieu, il n'y a pas d'amour. Dans Israël, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... » Mais il n'y a que de l'amour et de la miséricorde. Et nous voyons que c'est complètement aberrant et que c'est lié, pardonnez-moi, sans vouloir vexer qui que ce soit, mais c'est une forme d'ignorance ou peut-être un moyen détourné rapide pour ôter le sens réel et concret par incompréhension. Mais en même temps, nous devons comprendre que la base de ce qui constituera Israël n'est pas le mérite, mais la miséricorde. Et là, nous allons voir un certain nombre de points qui sont importants. Qu'est-ce que la miséricorde? Alors, si on le traduit dans la pensée moderne, on ne sait plus très bien. Le mot miséricorde est galvaudé, il veut dire beaucoup de choses, on le comprend comme on peut. Même si on lit dans le Larousse, on n'a pas obligatoirement la vraie et bonne définition de la miséricorde. La miséricorde, littéralement dans l'hébreu, il signifie ne pas se sentir indifférent par rapport à autrui. C'est-à-dire que Dieu, la gloire de son amour, c'est qu'il n'est pas resté indifférent au sort de l'humanité. Il aurait pu laisser l'humanité déchue suivre sa déchéance. Et en aucun cas se sentir concerné par cette humanité. Mais la preuve de l'amour de Dieu, c'est que il n'a pas voulu. Et l'une des caractéristiques, l'un des attributs les plus importants qui correspond à miséricorde dans l'hébreu, c'est chesed, c'est la bonté. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la miséricorde, l'amour, la bonté de Dieu, rien, rien ne permet d'être restauré et réparé. Et donc, si on le comprend comme ça, c'est que la miséricorde, elle va s'impliquer dans la situation non seulement de son prochain, mais il y a une compassion de la souffrance, c'est-à-dire qu'il y a une participation. L'Épître aux Hébreux, hein, toujours dans ses fameux chapitres 9 et 10, nous le démontre très bien, la participation du Mashiach aux souffrances. Il a souffert. Ésaïe 53, il a souffert à notre place. Il a pris sur lui nos douleurs, etc. Alors en même temps, il faut comprendre que derrière va se greffer la tendresse du cœur. Et aujourd'hui, vous savez pourquoi le monde coule ? C'est à cause de la dureté du cœur. C'est à cause de l'indifférence. J'aime beaucoup cette chanson de Gilbert Bécaud, l'indifférence, elle tue. Parce que l'indifférence, elle n'a pas de bonté. Elle n'a pas de compassion, elle ne s'intéresse pas. Mais en même temps, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas rester et que le vrai croyant, celui qui va marcher dans ces voies de l'Éternel, dans les voies de Dieu, ne peut pas rester dans l'indifférence. Et seulement regarder la souffrance et s'éloigner d'elle. Dieu s'est impliqué dans la souffrance de l'être, de l'humanité, de l'homme. Et je crois que cette petite prise de conscience... Alors vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'à un moment donné, nous pouvons comprendre que si nous comprenons le terme chesed, quel est son contraire ? Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre dans la Torah. Quand il y a l'énoncé, l'annonce de Dieu sur un terme, sur quelque chose, il y a toujours forcément son contraire. C'est ça le bien et le mal. Et c'est là que nous devons comprendre que Chazar, qui veut dire le cruel, celui qui est dans la cruauté, il se sent étranger. C'est ça être cruel. Le contraire de la bonté, c'est celui qui se sent indifférent, étranger, malheureusement. Et ça veut dire qu'il n'y a en lui, si je le traduis correctement, il n'y a en lui aucun sentiment de compassion. L'indifférence amène tellement d'indifférence à l'autre qu'il ne reste presque rien, même pas de l'amitié. Il n'éprouve rien, il s'éloigne, il est un étranger. Et c'est le sens de cruel en hébreu. Donc, c'est cette indifférence totale aux autres. Et aujourd'hui, je peux dire peut-être un peu rapidement, mais l'un des grands drames de tous les croyants d'aujourd'hui, c'est l'indifférence. C'est qu'on essaye de faire même du social ou autre. Ce n'est pas ça que c'est, sur lequel il faut mettre l'accent. C'est la relation de l'un à l'autre. Et que finalement, il y a des choses qui se perdent. Donc un deuxième point que l'on va relever et où on va développer un peu plus après, c'est la pudeur, la tsignut en hébreu. La pudeur, elle touche beaucoup de domaines. Et c'est vrai que si on le prend que dans le sens du judaïsme, dans l'hébreu, on va remarquer que ça va concerner essentiellement le comportement et la tenue vestimentaire. Et qu'il y a effectivement une tsignut qui est à tenir compte lorsque l'on s'approche de Dieu. Le souverain sacrificateur, pour cacher sa nudité, on va y faire une rampe. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à voir. Et c'est ce que l'on pourrait appeler dans la tsinout la capacité de savoir dissimuler quelque chose. Alors, il y a deux points que l'on pourrait relever. Le premier, c'est que l'on peut cacher ses défauts, ses pulsions, mais on peut aussi cacher ses qualités. Et donc, il y a quelque chose qui reste dans les profondeurs, qui ne s'exprime pas, qui ne se voit pas. Mais seulement quand l'Éternel les fait sortir, elles se révèlent. Et on dit, mais je ne te connaissais pas comme ça. Je ne savais pas et je n'avais pas vu ces choses. Alors, il est important de bien comprendre tout ça, mais l'opposé, c'est azout. Et azout veut dire, en hébreu, si on n'a pas cette pudeur, cette tsinout selon Dieu, ce respect, autant dans le comportement que dans la tenue vestimentaire, que dans l'approche de l'autre, que dans l'approche de Dieu, que dans le service de Dieu, si on n'est pas quelque part bien calqué là-dessus, on va rentrer dans la azout. Alors, en hébreu, quand on le traduit en français, le terme le plus proche que l'on pourrait donner pour la compréhension, c'est l'effronterie. Effronter définit quelque chose qui veut se mettre en avant, se mettre en évidence, qui se dévoile et qui s'extériorise. Alors, peu importe que ce soit bon ou mauvais, il faut qu'à un moment donné, il fasse tout sortir dans le bon comme dans le mauvais. Et il dévoile tout, les qualités comme les défauts. Et là, à un moment donné, il n'est plus dans la pudeur que Dieu demande. Le troisième, c'est la tzedaka, la charité. Et c'est important parce que c'est apprendre à dispenser le bien. C'est apprendre à faire le bien. Naturellement, l'homme fait le mal. Quelles que soient les circonstances, son lieu de naissance, il n'est pas né pour faire le bien, il est né pour faire le mal. Il est né dans le processus de la mort et de la destruction. Donc, il est rentré dans quelque chose qui détruit, s'auto-détruit, mais il est fait pour faire le mal. Et la réparation, justement, est la plus grande dans la liberté, c'est quand on construit quelque chose qui va dispenser le bien, amener le bien. Et c'est quelque chose de fondamental. Eh bien, lorsque on entre dans ce cadre-là, on peut comprendre même dans les écrits de Paul la générosité. La générosité. La générosité, c'est quelque chose de perdu pratiquement aujourd'hui. L'homme est devenu, non, pas vraiment généreux, mais intéressé. Et la générosité, c'est quelque chose qui n'attend pas de retour. Il n'y a pas d'effet boomerang. Et dispenser le bien, ça veut dire beaucoup de choses, notamment que c'est l'une des recommandations dans Michée, quand il est dit « Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ça, c'est la base. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment s'appuyer. L'opposé de la générosité, l'opposé de cet amour de ce qui fait le bien, c'est celui qui ne donne pas, c'est l'avarice. Celui qui devient avare, il garde pour lui. Il ne donne jamais. Il veut prendre des autres. Regardez bien dans l'hébreu, la pensée maîtresse, c'est que celui qui rentre dans cette générosité, il prend de lui pour le donner aux autres. Il n'est pas là simplement dans un acte extérieur, mais il s'implique, il dispense le bien, il apporte le bien, il apporte autrement dit même, en hébreu, si on va loin dans le terme, dans l'étymologie, il amène la bénédiction là où il n'y en a pas. Il bénit là où la terre était aride, là où il y avait la mort. Il bénit, il apporte. Et je crois que c'est un élément fondamental parce que être généreux, c'est vraiment avoir quelque chose, comme on dit aujourd'hui, le cœur sur la main. Et malheureusement, on voit, même spirituellement, aujourd'hui, la générosité est rétrécie. Les gens veulent prendre les bénédictions dans la prière de Dieu, dans leur participation, dans tout ce qu'ils font, mais que redonnent-ils de ce qu'ils ont reçu? Est-ce que l'on redonne? Non, on veut garder. Et le terme hébreu, justement, qui nous amène à comprendre que l'opposé, c'est l'avarice, Il cherche toujours à prendre. Ça, c'est la première caractéristique. À profiter. À profiter. Pour lui-même. Vous comprenez la différence ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il y a inévitablement dans ces caractéristiques quelque chose qu'on doit comprendre. Et si nous voulons vraiment rentrer dans le concret pour servir l'Éternel, pour être libre, ça veut dire que sortir des trois contraires. Autrement dit, la vraie liberté, c'est que Dieu nous donne des directives avec des notions, mais il nous donne aussi le contraire qui peuvent nous garder dans l'asservissement, dans l'esclavage. Parce que le problème, c'est que, on peut le dire comme on veut, mais inévitablement, ça entraîne un engrenage de choses qui va aller toujours plus loin. C'est-à-dire que l'avarice va devenir cupidité. La cupidité, c'est une insatiabilité de possession. On veut toujours posséder plus et plus et plus et plus. Et même si on a plus l'année d'après que l'année d'avant, on n'est pas encore satisfait. Et il faudra que l'année d'après, on ait encore plus que l'année en cours. Et plus et plus et plus et plus. C'est comme la bourse. C'est, on ruine, on maltraite, il faut le dire, des ouvriers. Et les autres, ils vont gagner des sommes disproportionnées. Mais augmenter de 100 euros, 200 euros, 300 euros un salaire minimal, non. Par contre, sur les bénéfices produits par eux, ils prennent. Vous comprenez ? Et on peut dire, oui, ils travaillent, je suis d'accord. Mais en même temps, voilà, l'être qui pense qu'à lui-même, c'est qu'il va se servir que pour lui-même. Et il ne se soucie pas du sort des autres. Et parfois, il arrive que malheureusement, eh bien, il y a un piège dans la constitution des membres des assemblées aujourd'hui, c'est d'oublier les fondamentaux, c'est d'oublier les bases. Alors c'est... caractéristiques nous disent la Torah hein, qu'elles sont vraiment, vraiment importantes parce que c'est une pratique. C'est quelque chose de concret. Ce n'est pas inaccessible, mais ça veut dire un cœur qui change, qui s'oriente vers le Sinaï et que de Sinaï, il rentre dans le lieu de la promesse et qu'il rentre dans le lieu du salut. Et autrement, il se rend à nouveau esclave de l'Égypte et de Pharaon. Donc, ce sont des choses que, si l'on reprend dans les écrits hébreux, qui sont considérées comme étant les piliers sur lesquels repose le monde. Enlever ces trois choses, et que reste-t-il dans le monde ? Enlever la miséricorde, l'amour ou la bonté, il reste l'avarice. Et l'avarice amènera la destruction. S'il n'y a plus de bonté, que restera-t-il ? L'avarice. Et si nous amenons l'absence de miséricorde, comme on l'a vu dans son contraire, eh bien, il restera l'autre côté. Et justement, le grand combat, le grand défi que l'Éternel s'est lancé face à tout le paganisme, face à tous les concepts de cruauté régnant à l'époque, et qui était quand même terrible, quand on voit ce que Pharaon a fait pendant 430 ans, on ne peut pas parler de quelqu'un qui aimait. On a vu un pharaon qui a aimé Joseph, et Joseph a fait prospérer. Mais un pharaon qui n'a pas aimé Joseph, il a amené la mort des premiers-nés. Il a amené les plaies, il a amené la destruction de son propre peuple, de son propre pays. Prenez aujourd'hui, dans une dimension un peu différente, la Syrie, normalement un chef politique, doit aimer, devrait aimer son peuple, devrait vouloir le bien de son peuple pour qu'il soit une référence dans les autres nations, pour qu'il soit élevé. Aimer son peuple, c'est aussi voir comment on va le faire prospérer. Le régime du père ou du fils Assad a amené toujours l'oppression, toujours quelque chose qui a réduit. Et jusqu'au moment où, indépendamment des autres printemps arabes, qui s'est passé très différemment que la Syrie est le seul pays qui, dans son printemps arabe, n'a pas connu le même dénouement. Et il est terrible, parce que il a commencé par quelque chose qui était une insatisfaction, et Assad est resté sourd, 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 il reste sourd, sourd, sourd. Et aujourd'hui, il y a un nombre incalculable de morts. 60 000 morts, en combien de temps?
Deux ans, même pas deux ans.
Ouais. Vous imaginez que Bachar al-Assad, pour le maintien de son pouvoir, ne pense à personne d'autre qu'à lui-même. 60 000 morts, pour lui, c'est rien. Pourvu que lui reste. Et les règlements de compte, c'est terrible parce que c'est la cruauté. Mais il y aura l'après Assad. Et l'après Assad, comme dans toutes les nations, est parfois pire dans les règlements de compte. Ce qui veut dire que ce n'est pas terminé. Indépendamment d'autres éléments. C'est pourquoi l'Éternel a voulu qu'Israël soit fondé sur la bonté et la justice. Parce que Tzedaka, la charité, c'est la justice, c'est la bonté. En même temps, réunie, c'est la pratique. Et s'il y a quelque chose qui correspond, alors non seulement elle rend libre, mais elle amène le royaume de Dieu. Donc il y a trois piliers. Et ces trois caractéristiques nous amènent à vivre un certain nombre de choses. Mais je crois que si nous prenons dans le terme hébreu « ra'amim », qui veut dire la miséricorde, et qui donne la notion de bonté, de chesed, qui est un des attributs divins, alors il signifie aussi, et vous allez voir comme on entre maintenant dans le vif et le profond du sujet, c'est que la miséricorde ne peut pas s'exercer si on ne comprend pas le fait qu'il soit lié au viscère et au cœur, les reins et le cœur. Deux lieux fondamentaux dans la Torah, deux lieux d'importance. Et on verra qu'il y a une base, et que cette base que nous avons lue dans un premier temps, elle va se réaliser également dès que Yeshua, Mashiach, va commencer sa lecture, qui va inaugurer le changement de son futur, qui va établir le principe même de sa messianité. C'est Isaïe 61:1. Et quand on le lit, il y a tout un tas d'énoncés, rendre libre, etc., etc., guérir les cœurs brisés. Mais il y a une expression qui ressort et qui se détache quelque part et qui paraît peu compréhensible. Quand il est dit « pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel », eh bien, nous voyons que une année de grâce, une année de bonté, une année de pardon, une année qui sera particulière. Et Yeshua, quand il lit ça, il nous amène dans la compréhension directe qu'il ne peut pas accomplir toute la dimension messianique s'il n'incarne pas en lui-même le cœur de Dieu, en étant celui qui va amener la miséricorde, le pardon, la bonté, mais également, et nous devons le comprendre comme étant quelque chose d'intérieur. Mais on va y revenir. La pudeur, c'est de nous amener aussi à quelque chose qu'on oublie très souvent, c'est la modestie. Et il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Et c'est tout le contraire, qui se font valoir, qui font valoir leurs dons, leurs expériences, leurs choses, essayant de se vendre, essayant d'acheter l'amour de l'autre, d'essayer d'acheter en quelque sorte la confiance de l'autre. Et la tsignout, la pudeur, c'est justement l'inverse, celle qui ne cherche pas à acheter, mais qui se cache et qui se révèle dans les moments difficiles. Et donc, ensuite, nous voyons que Paul va mettre les trois fondements que j'ai établis dans quelque chose. Quels sont les trois fondements dont Paul parlera qui sont éternels ?
L'amour.
Voilà. Ça veut dire que tu peux croire en des choses, mais nous savons très bien que l'émouna, c'est une pratique aussi. Et que s'il n'y a pas une réalité dans la pratique, eh bien, c'est vain. C'est-à-dire que si on n'a que du spirituel et qu'on se nourrit seulement que de paroles, de tchatch et de blabla, et qu'il n'y a pas de concret, ça ne sert à rien. Voilà ce que dit Paul dans le premier temps. Dans le deuxième, il dit dans l'espérance, c'est parce qu'elle nous projette dans un futur tellement glorieux, tellement merveilleux, qu'elle nous amène à réaliser un certain nombre de choses. Le troisième, il dit que c'est l'amour qui reste éternel. Et c'est vrai que même dans les romances modernes ou d'hier, on trouve que on parle de l'amour qui est éternel. Hein. C'est l'une des seules choses qu'on considère vraiment comme éternelle. Or, aujourd'hui, on est complètement dans les divorces. On est dans l'homosexualité. On est dans quelque chose qui perd son sens. Et je crois que si Paul le fait, c'est que ce sont des choses qui demeurent éternellement et qui sont reliées à ce que l'on a vu. Maintenant, la liberté et les fondements de cette liberté que l'on trouve, elle est liée. Et ce n'est pas pour rien que j'ai pris la Haftara de Isaïe au chapitre 6, où Dieu se dévoile et où il parle à Isaïe le prophète en lui disant « Qui marchera pour nous ?» Et il lui révèle un certain nombre de choses et qu'il va prendre même ce qui va purifier la langue, car Isaïe va dire « Je suis impur, je suis indigne, je ne peux pas. » Et l'Éternel va lui dire « Ceci te rendra digne. » Et donc, nous devons bien réaliser qu'il y a un nouvel itinéraire dans la vie du prophète Isaïe et quelque chose qui va grandir. Donc, on va lire quelques passages maintenant parce que dans l'hébreu, c'est miséricorde, rahamim, mais dans le grec, c'est eleos. Et je pense qu'Hélène pourrait dire, comme moi, qu'eleos, c'est l'équivalent des entrailles. Il nous faut des entrailles. Ça veut dire que celui qui veut servir Dieu, mais qui n'a pas d'entrailles, il est dans la cruauté. Il dissimule sa cruauté par une fausse miséricorde, par un faux amour. Matthieu 5, Matthieu. Et on va voir, quand on prend Matthieu 5, c'est les fondements de tout le ministère de Yeshua. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, les vrais fondements se trouvent dans Matthieu 5. Il n'y en a pas d'autres. Et ils sont en relation avec les 10 paroles. C'est les commandements de Dieu, là. Chaque énumération correspond à un commandement. Et pour aller très vite, on va lire à partir du verset 5. Heureux, Asheret, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim, car ils seront, faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux, Asheret, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et là, il y a une loi. La miséricorde, tu peux ne jamais l'obtenir. Car la parabole du juge inique qui dit « Seigneur, pardonne-moi, remets-moi ma dette, pardonne ma faute » ou quelque chose qui fait que je ne pourrai jamais être à la hauteur du pardon ou du remboursement de ma dette. Et cet homme, voyant les pleurs, etc., se laisse émouvoir et lui pardonne. Et ce même homme qui a été pardonné, qui a vu sa dette annulée, remise, à cause de la compassion de son créancier, qui s'est laissé émouvoir par sa situation, lui, quand il va rencontrer l'autre, quelqu'un qui lui doit beaucoup moins que ce que lui devait, il est largement en dessous. C'est l'équivalent de que quelques euros aujourd'hui. Et il le rencontre et lui dit « Rends-moi l'argent, rembourse ta dette. » Et l'autre dit exactement la même chose que ce que lui avait fait quelques minutes avant. Et lui dit « Remets-moi, écoute, je ne peux pas, j'ai de la souffrance, j'ai une situation, etc. » Et l'autre lui dit « Rends-moi l'argent. » Et il le prend au cou, au point qu'il y a des hurlements. Et il lui dit « Rends-moi le fric !» Et lui dit « Tu vas me rembourser maintenant !» Et l'autre qui avait fait miséricorde entend, et il vient vers lui et lui dit « Je t'ai remis la dette parce que j'ai eu compassion, autrement dit miséricorde, vis-à-vis de ta situation. Et toi, ne pouvais-tu pas faire de même? Eh bien, c'est exactement, on peut demander pardon à Dieu pour tous nos mals, nos maux, pardon. On peut demander pardon à l'Éternel pour toutes nos fautes. Mais si nous ne pardonnons pas à notre prochain, nous n'obtiendrons pas miséricorde. D'où le fait que l'état de cruauté augmente dans les églises, dans le caractère familial de l'éducation. La haine augmente, le mal augmente, et on en arrive à détester son prochain au lieu de l'aimer. Or, la base, fondement des commandements de l'Éternel, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Luc 10, 37. On va lire à partir du 36. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Yeshua lui dit, va, et toi, fais de même. Donc, vous pouvez lire, puisque c'est l'une des paraboles les plus étranges, mais également la plus merveilleuse, parce qu'elle nous démontre vraiment le fondement, c'est le Samaritain, l'étranger, celui qui n'a pas part au peuple d'Israël. Et il va trouver plusieurs types de personnes qui vont le côtoyer ou passer. Et le premier, il va dire, un homme, parce qu'on ne doit pas rentrer en contact avec l'impureté, je respecte trop ma religion, ou je suis trop pur, ou je suis, ouh là là, il ne faut pas que j'aie contact avec la souffrance, ouh là. Et vous avez des gens comme ça dans les assemblées aussi, des croyants, qui vont laisser, hein, parce qu'ils vont estimer qu'ils sont trop purs. Etc., etc. Et après, la question que Yeshua va poser au docteur de la loi, au Pérouchim, en lui disant, mais quel est le vrai sens? Et il lui dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Et Yeshua dit, t'as bien répondu. Et pourquoi il a bien répondu? Ben parce que l'autre va le prendre, il va prendre l'étranger, il va prendre celui qui ne méritait pas. Normalement, il y avait cette guerre, il y avait cette interdiction de contact. Il y avait quelque chose qui ne pouvait pas du tout entrer en matière. Et lui va le prendre et il le met à l'auberge et il lui dit, eh bien, s'il y a une dette ou s'il y a quoi que ce soit, note et je rembourserai. Ça, c'est le geste de l'amour. C'est de prendre vraiment. Et le danger, parfois, aujourd'hui, c'est ce mépris que l'on a par rapport à celui qu'on considère comme étant l'étranger spirituel. Hein, il y a des étrangers spirituels dans toutes les assemblées, puis on ne va pas entrer en matière. Romains 9, à partir du verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire reconnaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire, ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc là, on peut le comprendre de plusieurs manières, mais il est très clair, des vases de miséricorde et des vases de colère. La colère, elle est liée à la cruauté. Et nous voyons bien qu'il y a toujours un peu ces choses ensemble. 1 Pierre 3,8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin, alors là, écoutez bien l'hébreu, afin de devenir un héritier de la bracha, de la bénédiction. Alors, ceux qui veulent être bénis seulement par des prédications, par des impositions de mains, par des gens qui soi-disant bénissent, et qu'on veut être béni, et puis là, on a une recette simple, glorieuse, merveilleuse. Devenir un héritier de la bénédiction, c'est une transmission. C'est quelque chose qui ouvre un futur qui a été fermé. C'est quelque chose qui va apporter un changement à tous les niveaux, de la malédiction en bénédiction. Mais il y a une condition, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Ne rendez pas le mal. Qui d'entre nous ne rend pas le mal? Quelle est notre pratique concrète, de tous les jours, pas de 2 heures par semaine, mais de tous les jours. Lorsque nous sommes confrontés aux situations, à des problèmes, notre réaction, elle révèle le fond de notre cœur. Et quand elle se révèle, parfois, elle est terrible parce qu'elle est colère, elle est cruauté, elle est méchanceté, elle est non-pardon, elle est accusatrice. Et très souvent, quand vous parlez de quelqu'un, rarement on entend de l'amour. Quand on entend autour de soi quelque chose sur quelqu'un, on entend rarement le côté positif, à quelques exceptions. Mais les autres, on a l'impression qu'ils ne le méritent pas. Et je crois que les fondements de la liberté, c'est quand on a transformé la pratique pour bénir et devenir un héritier de la bénédiction. On va conclure avec le dernier, Ahava, l'amour. Mais si vous voulez, pour la tsinout, c'est Job 19 et le verset 3, que vous pouvez méditer, il est magnifique. Avant même que la loi ne soit donnée, il y avait déjà des lois. Avant que la loi ne soit promulguée, Job était antérieur à Moïse, hein, antérieur à beaucoup. Hein. Comme on l'a lu dans Michée, mais on va plus loin. Yeshua nous amène aussi sur le terrain, quelque part, glissant. Car si je pose la question, je suis loin d'avoir tout développé. Hein. Mais si nous posons la question, qui veut servir l'Éternel ? Je crois que tout le monde lèverait la main. On serait tous enclins, naturellement, qu'on veut tous servir l'Éternel. Et que ceci, eh bien, n'est même pas à poser en question, ni à demander. Mais par contre, Yeshua va dire aussi, de la même façon que l'on a trouvé les conditions pour Israël, pour servir l'Éternel au travers du Mishkan, comment on va le servir, lui, le Messie incarné, révélé. Le Messie qui va justement intégrer toute la Torah. Et il y a un passage clé, c'est vrai que je ne peux pas m'étendre dans le développement, mais il y a plusieurs passages où lui-même parle de l'amour, du don de l'amour. Il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. » C'est-à-dire qu'il ne gardera pas une parcelle de sa vie, car toute sa vie sera pour les autres. Voilà ce qu'il signifie ce passage. Et c'est donner. Donner, ça veut dire offrir. Ça veut dire ne pas attendre, ça veut dire ne pas prendre. Si tu viens, si tu es un croyant qui cherche toujours à prendre, tu es un mauvais croyant, pardon du jugement. Ce n'est pas un jugement, mais quelque chose s'arrête. Et tu rentres dans la cupidité, c'est-à-dire que jamais tu en as assez, tu voudras toujours plus et tu iras toujours courir après plus de gens. Mais jamais elle ne s'établira la bénédiction sur ta vie. Or, le principe, c'est qu'elle s'établisse. Et Yeshua nous amène maintenant, on pourrait parler du jeune homme riche par rapport au bien matériel. Est-ce que, quelque part, nous sommes prêts à quitter une forme d'attachement aux choses dont nous dépendons, que nous aimons, que nous avons construites, que nous avons établies? Sommes-nous prêts? Pouvons-nous? C'est une question très cruciale. Quand on ne possède rien, il n'y a pas de problème. Mais quand on possède des choses, l'équité devient un problème. Et pourtant, Yeshua va insister en voyant que l'âme et l'intérieur de ce jeune homme est bonne, propre, propice, pure, adéquate, et qu'il est en parfait accord. Sauf que Yeshua va voir qu'en lui, il est prêt à tout, sauf à lâcher une chose, ce qu'il possède. Et ça peut être nos souvenirs, nos concepts, ça peut être plein de choses, c'est pas que matériel. Ça peut être tout un tas de choses dans lesquelles on reste attaché et où on n'a pas envie de partir, de quitter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, malheureusement, il y a une ascension qui ne se fera pas, une croissance qui s'arrêtera. Alors quel est le verset clé qui va conclure un peu tout ça? C'est de découvrir que Yeshua, non seulement il est celui qui est l'incarnation, on peut dire, de l'amour, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais la condition que Yeshua nous pose par rapport à tout ce qui va se faire et dont il nous faut tenir compte. Qui peut être disciple de Yeshua? Quelles sont les conditions que Yeshua lui-même pose pour être disciple? Quand Yeshua dit qu'à l'amour que vous vous porterez, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que Yeshua ne reconnaît pas le disciple qui ne pratique pas ça. Il connaît le tchatcheur, l'homme d'iniquité, celui qui dit au nom de Yeshua qu'il guérit, celui qui fait du bien au nom de Yeshua, celui qui est constamment avec Yeshua dans les lèvres mais pas dans la vie, celui qui fait simplement de la théorie mais en même temps qui peut être concret dans des actes. Au nom de Yeshua, n'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas chassé les démons? Il y en a plein. Et Yeshua dit une chose non pas à l'étranger, il dit aux gens du peuple, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Regardez bien comme la pratique a une importance. Il ne dit pas parce que tu as dit au nom de Yeshua, mais il dit parce que ta pratique est inique, parce que ta pratique est fausse. Alors, retirez-vous de moi, car je ne, et c'est une parole dure, je ne vous connais pas. Et en hébreu, ça veut dire « je n'ai aucune relation avec vous ». Je n'ai aucun lien de relation avec vous. L'hébreu veut dire ça. Ce n'est pas uniquement ce qu'on peut comprendre à prime abord, mais il veut dire « je n'ai aucun lien de relation parce qu'on est dans les choses contraires ». Et nous avons établi justement toutes ces choses par rapport à leur contraire parce que inévitablement, dans notre pratique, nous entrons dans ces catégories. Et les contraires, l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance, l'arbre du savoir, eh bien, il est là. Et il nous amène à des choix. Et il n'y a que Sinaï, au travers du propitiatoire, au travers de l'œuvre de Mashiach, que nous pouvons être délivrés de l'asservissement, c'est vrai, par Pessah. Mais après, c'est l'établissement des lois, la pratique, qui aide à la liberté. Et ceci veut dire que le vrai disciple, contrairement à la gentillesse dans laquelle on peut être aujourd'hui dans le monde chrétien global, général, dénominationnel et autres, mais où la pratique s'est perdue, où justement la relation s'est perdue, on peut chanter Yeshua, on peut prêcher Yeshua, on peut prier Yeshua, on peut invoquer Yeshua, on peut même faire certaines choses pour Yeshua, on peut faire plein de trucs. Mais il y a un moment donné où nous aurons un rendez-vous du Sinaï spirituel. Et il nous dira, qui es-tu? Comme il a dit à Adam, où es-tu? Qui es-tu? C'est où es-tu? Où as-tu été? Je ne te vois pas. Et quand on dit en hébreu, je ne te vois pas, c'est finalement, je ne t'ai jamais connu. Et il n'y a rien de pire que d'être un inconnu de Dieu. Mais il n'y a rien de plus merveilleux, de plus glorieux que d'être quelqu'un de connu de Dieu. Car celui qui est connu, Dieu l'exauce. Nul ne peut parler comme cet homme si Dieu n'est avec lui. Nul ne peut faire les miracles si Dieu n'est avec lui. Nul ne peut véritablement apporter le bien si Dieu n'est avec lui. Et Dieu n'exauce pas ceux qui font le mal. Ceux qui sont empreints du mal, ceux qui nourrissent le mal, ceux qui travaillent le mal, ceux qui le laissent se développer. Et c'est pourquoi, quand nous entrons dans la dimension de dire « Seigneur, je veux te servir, je veux être un disciple, je veux entrer dans cette dimension », ça va vouloir dire que l'arbre du bien et du mal va être séparé en nous. Ça va être les deux généalogies de Chava, la descendance de Caïn, ou la descendance de Mashiach, Adonai Eloheinu. Que ton essentiel reste dans nos cœurs.